Bien, mesdames, messieurs, tout d'abord, nous sommes heureux de vous accueillir à la librairie Mola pour la présentation d'un ouvrage de M. Patrick Artus, « La France sans ses usines », sorti il y a quelques mois. Je voudrais d'abord présenter M. Artus en le remerciant de venir nous faire cette conférence. M. Artus est professeur à l'École Polytechnique, professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du Conseil d'analyse économique et du Cercle des économistes, ancien administrateur de l'INSEE, membre du Conseil d'administration de Total et d'Ipsos, et également directeur des études à la banque Natixis. Et comme vous pouvez le deviner, M. Patrick Artus est un des spécialistes français en économie internationale et en politique monétaire. Juste, donc nous allons, je vais poser quelques questions à M. Artus, juste pour que vous ayez une idée du binôme que vous avez en face de vous. Je travaille pour ma part à Sciences Po ici à Bordeaux, enseignant la culture générale, dont l'économie est une des matières extrêmement importantes, et je suis Madame Dolin-Dufresnel. Voilà. Donc, M. Patrick Artus, vous avez une bibliographie conséquente et impressionnante. J'ai regardé sur les sites où on parle de cette bibliographie et je lis quelques titres. « Le capitalisme est en train de s'autodétruire », paru en 2005. « Comment nous avons ruiné nos enfants », paru en 2006. « Les incendiaires, les banques centrales dépassées par la globalisation ». « Globalisation, le pire est à venir ». « Est-il trop tard pour sauver l'Amérique ?» « Sortie de crise, ce que l'on ne nous dit pas ou ce qui nous attend ». Et cette fois-ci, vous sortez cet ouvrage « La France sans ses usines ». Ma première question, c'est pourquoi ce ton résolument pessimiste de ces ouvrages, ou du moins de leurs titres ?
Oui, bonsoir à tous. Pas résolument pessimiste. Je crois d'ailleurs que la plupart des choses que nous avions, parce que j'ai beaucoup écrit avec Marie-Paul Virard, qui était journaliste et avec qui on travaille beaucoup ensemble. Je crois que la plupart des choses que nous avons écrites depuis 10 ans sont à peu près réalisées. Une dizaine d'années, on avait dit que les exigences de rentabilité du capital provoqueraient des crises affreuses parce qu'il y avait une recherche de rendement du capital qui était au-delà de ce qu'on peut attendre normalement, et ça s'est quand même à peu près produit comme ça. On a mis en avant dans un autre livre le fait que tous les ajustements finalement dans les crises se faisaient sur les jeunes, hein, que ce soit les ajustements sur l'emploi, les ajustements sur le patrimoine, et les ajustements budgétaires. On a effectivement, enfin vous avez tous cité, on a montré que il n'y a pas plusieurs crises, il y a une seule crise, on va y revenir pour parler de désindustrialisation, mais il y a une seule crise qui se répète depuis une trentaine d'années, mais qui est la même crise finalement. C'est une crise de l'inadaptation des appareils productifs à la mondialisation, et qui parfois apparaît comme une crise de l'économie réelle, parfois apparaît comme une crise des banques, parfois apparaît comme une crise des États, et c'est la même crise qui ressort. Et effectivement, peut-être on pourra en débattre avec vous tout à l'heure, mon sentiment c'est que la crise où nous sommes en ce moment n'est pas la dernière, donc on n'a pas réglé le problème de fond qui génère des crises. Donc on n'est pas pessimiste, on est en train de préparer notre prochain livre, il sera encore pire évidemment, où finalement on revient sur les 40 dernières années en disant que finalement nous payons une succession, pas d'erreurs, mais je dirais de myopie depuis les années 70. C'est-à-dire depuis les années 70, les gouvernements, pas seulement en France, c'est-à-dire dans les grands pays industrialisés ou riches, les gouvernements font systématiquement des analyses erronées des problèmes qui se posent. Donc quand on a un choc pétrolier dans les années 70, on met en face des déficits publics. Il ne faut pas faire ça, quoi. Je dirais, le choc pétrolier, c'est un choc sur les prix des matières premières. On ne peut pas compenser ça en faisant des déficits publics. On ne comprend pas la nature ensuite de la mondialisation et on ne comprend pas qu'on va se trouver en face de pays émergents avec une main-d'œuvre qui va rester durablement extrêmement peu chère et donc qu'il ne faut pas produire les mêmes biens qu'eux. Je pourrais y revenir peut-être tout à l'heure. Et on persiste finalement à défendre le modèle tel qu'il est sans se rendre compte qu'il faut monter en gamme, qu'il faut se déplacer par rapport aux pays émergents. Et puis finalement, on met de la dette partout pour essayer de fabriquer de la croissance, alors qu'on ne devrait pas avoir de croissance, mais pendant un temps, on peut faire semblant d'avoir de la croissance en mettant de la dette partout, qui est de la dette des entreprises, puis de la dette des ménages, et maintenant de la dette des États. Et la dette, ça fabrique de l'illusion de croissance quelques années, ça ne fabrique pas vraiment de la croissance. Donc je crois qu'on n'a pas voulu être pessimiste, on l'est devenu en réfléchissant, malheureusement. Donc voilà. Et donc, le livre ce soir, bon, c'est un des éléments de cette réflexion, mais je crois qu'il est vraiment fondamental, parce que c'est raconté, et c'est sur le cas de la France, mais à nouveau, on pourrait raconter des histoires similaires en parlant des États-Unis, en parlant du Royaume-Uni, en parlant de l'Espagne. C'est raconté comment, finalement, on s'est embarqué dans un modèle économique non viable, qui est un modèle où on ne fabrique plus de produits qui se vendent dans le monde. Alors, à nouveau, on va peut-être reprendre notre dialogue, mais la France sans ses usines, j'ai notre éditeur qui est meilleur que moi pour trouver les titres qu'il a trouvés, donc c'est Fayard, mais il faut comprendre que notre problème, c'est l'industrie, hein, et je voudrais juste faire un tout petit mot de sémantique avant qu'on débatte. L'industrie dont nous déplorons la disparition en France, dans notre pays, c'est pas que les usines, justement. Hein, c'est toutes les activités économiques qui utilisent une main-d'œuvre relativement qualifiée, qui utilisent des processus de fabrication relativement compliqués et qui ont comme particularité de fabriquer des biens ou des services qui s'exportent. Donc ça inclut l'industrie, mais ça inclut le cinéma, les jeux vidéo, la finance, les services juridiques. Enfin, donc c'est cet ensemble de biens et de services qui sont, je dirais, le cœur en termes de qualification, de progrès technique et surtout, et c'est un point très important, de capacité à vendre des biens dans le reste du monde. Donc faut pas réfléchir. Industrie, il faut plutôt le prendre dans le sens anglo-saxon. Donc c'est pas l'industrie au sens usine, justement, c'est l'industrie au sens ces secteurs qui fabriquent de la richesse qui s'exporte. Et à nouveau, il y a plein de choses là-dedans qui ne sont pas du tout de l'industrie traditionnelle.
Oui, mais justement, bon, je vais prendre quelques exemples industriels qui sont dans votre ouvrage. On voit aussi que 40% de la force de frappe industrielle française a été perdue en quelques années. Si on prend l'exemple de Renault ne construit plus que 20% de ses modèles en France. Depuis 1980, 2 millions d'emplois industriels ont été perdus. Et dans votre ouvrage, vous allez même plus loin dans votre analyse, parce que vous parlez de désastre industriel français. Et d'ailleurs, la Gazette des communes, qui a fait un commentaire sur votre ouvrage, qualifie votre analyse de scénario cauchemar. Pouvez-vous nous l'expliquer peut-être un peu plus en détail, exemple à l'appui, justement?
Oui. Alors, je crois qu'il faut partir de l'idée qu'on avait un modèle économique en tête dans beaucoup de pays, hein, et que beaucoup d'hommes politiques en particulier ont très longtemps eu en tête, c'est en train de changer, mais c'est très récent, qui est de dire l'industrie, c'est plus quelque chose qui est adapté aux pays les plus riches. Donc l'industrie, ça part dans les pays émergents, et dans les pays les plus riches, il va rester des services de proximité et des emplois extrêmement sophistiqués qu'on peut appeler nouvelles technologies, hein, mais c'est plus large que ça. Donc c'est à nouveau, c'est l'électronique, c'est les grandes multinationales, c'est la finance, etc. Et donc l'idée qu'on pouvait très bien, et c'est une idée qui était très très répandue aux États-Unis, mais que les hommes politiques français avaient adoptée, qu'on pouvait très bien accepter un énorme amaigrissement de l'industrie, que c'était plus l'avantage comparatif des grands pays avancés, hein, des plus riches, de fabriquer des produits industriels. Donc on envoyait l'industrie en Chine ou en Europe centrale et on faisait des services et des nouvelles technologies. Et je crois que le réveil, c'est la réalisation de ce que ce modèle-là ne marche pas. Alors, il ne marche pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les emplois qu'on peut créer dans les services les plus avancés, appelons ça les nouvelles technologies, mais à nouveau, il faut prendre ça dans une définition très large, sont bien trop peu nombreux pour compenser les emplois qui disparaissent de l'industrie. Le pays où les nouvelles technologies sont le secteur le plus gros, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, les nouvelles technologies emploient 4% de la population. L'industrie américaine employait 25% des Américains en 80. Aujourd'hui, c'est 7% des Américains. Donc, on a perdu 18% de la population, quoi, dans l'industrie, et on a créé 3 ou 4% d'emplois dans les nouvelles technologies. Donc, quand on perd l'industrie, ce qui se passe, c'est pas un processus de montée en gamme où les individus ne travaillent plus dans l'industrie, mais vont travailler dans des secteurs très sophistiqués. C'est un processus de descente où les individus qui travaillaient dans l'industrie vont travailler dans les services de proximité, dans la distribution, etc. Alors, c'est pas une critique, à nouveau, des emplois. Il faut des emplois peu qualifiés dans les services de proximité, parce qu'il faut créer des emplois. Mais quand la dynamique d'un pays, ça consiste à ce que les ouvriers de l'industrie se mettent à travailler dans la grande distribution, hein, ou dans, c'est pas une dynamique positive, quoi. Donc, aux États-Unis, hein, on synthétise ça en disant, avant, il était chez General Motors, maintenant, il est chez Walmart, quoi. Et ça, c'est pas. Et c'est, bon. Donc il y a un problème de... On déqualifie la population en moyenne dans ce modèle, hein, puisqu'on n'arrive pas à créer suffisamment d'emplois très qualifiés pour récupérer les emplois industriels qui disparaissent. Deuxième problème, c'est l'industrie qui fait des gains de productivité. C'est très difficile de faire des gains de productivité dans les services. Les services, il y a beaucoup de main-d'œuvre. Quand vous regardez les chiffres, vous voyez que les services font extrêmement peu de gains de productivité. Donc une économie purement de services, c'est une économie qui a très très peu de croissance. Tandis que là, c'est l'industrie qui fait des gains de productivité, à la fois en créant de nouveaux biens, puis en changeant les processus de production des biens. Et donc, on voit bien qu'il y a un lien, très important entre la désindustrialisation et la croissance. Alors, en général, quand j'avance ça, il y a assez vite quelqu'un dans la salle qui dit « Oui, mais a-t-on vraiment besoin de croissance ?» Peut-être que ce commentaire viendra tout à l'heure. Enfin, moi, je veux dire, mon sentiment, c'est que... Enfin, ça dépend de la croissance, mais on parle de productivité. C'est-à-dire de la capacité des individus à fabriquer plus de biens et de services chaque année. Hein, donc, ce n'est pas vraiment la croissance, c'est vraiment la productivité du travail. C'est ce que chacun d'entre nous est capable de produire. Dans des économies purement de services, donc cette productivité augmente extrêmement peu. Quand vous faites les calculs dans le cas français aujourd'hui, vous trouvez que, compte tenu des gains de productivité, compte tenu du fait qu'on a une économie avec maintenant très peu d'industrie, la croissance qu'on peut espérer pour le futur, c'est de l'ordre de 1% par an, et pas plus. Et de ce 1% par an, il faudra prendre 1,5% pour financer les effets du vieillissement et 1,5% pour payer les matières premières plus chères. Ce qui veut dire qu'on est aujourd'hui dans une société où les jeunes qui rentrent dans le marché du travail, puisque la totalité de notre capacité à fabriquer de la richesse supplémentaire va être mangée par les producteurs de pétrole et par le vieillissement, donc les jeunes qui rentrent sur le marché du travail vont avoir comme perspective d'avoir le même pouvoir d'achat toute leur vie, hein, sans aucune amélioration, aucun moment. Ben, je trouve pas ça très sympathique, et c'est évidemment lié très fortement à la disparition de l'industrie. Quand vous regardez les pays qui sont capables de générer davantage de croissance, c'est des pays où il y a une structure économique plus industrielle. C'est par exemple des pays comme la Suède, le Canada, qui sont la Finlande, enfin, ou l'Allemagne, hein, qui sont des pays qui ont gardé un secteur industriel plus gros. Et puis le dernier problème, et là on est en plein dans la crise de maintenant, il faut comprendre que c'est ça la crise que nous avons aujourd'hui, c'est que si vous n'avez plus d'industrie, vous ne pouvez plus exporter, puisque enfin, il n'y a aucun pays, il y en a un qui est le Royaume-Uni, mais qui est très particulier hein, avec les city, la finance, etc., mais il n'y a aucun pays à part le Royaume-Uni qui n'est capable de compenser le fait qu'il n'exporte pas de produits industriels par des exportations de services. Vous pouvez ajouter le tourisme et toutes les sortes de services que vous pouvez exporter. Ça n'est jamais assez gros pour compenser le fait que si vous n'avez plus d'industrie, vous n'exportez pas les produits industriels et vous devez importer les produits industriels. Et donc les pays désindustrialisés ont des déficits extérieurs. Et la crise européenne en ce moment, qu'on présente comme une crise des finances publiques, en réalité c'est une crise des déficits extérieurs. L'Italie, l'Espagne, et la France, la Grèce, le Portugal, etc. ont des déficits extérieurs parce que leur secteur industriel est devenu tout petit. Et ça veut dire qu'ils doivent s'endetter, essentiellement auprès des Allemands, hein, qui eux sont dans la situation opposée. Et à un certain moment, les Allemands refusent de leur prêter davantage et vous fabriquez la crise financière d'aujourd'hui. Donc la crise financière d'aujourd'hui, c'est une crise de désindustrialisation, hein, et des dettes extérieures qu'elle fait apparaître dans les pays qui sont désindustrialisés. Donc voilà, donc je crois qu'on comprend aujourd'hui qu'il ne faut pas... Enfin, on ne peut pas vivre dans une... C'est très difficile d'avoir un pays qui est désindustrialisé, à nouveau, parce qu'il ne crée pas d'emplois qualifiés, parce qu'il paie des salaires plus faibles, parce qu'il ne fabrique pas de croissance et parce qu'il a un gros problème de commerce extérieur. Alors, si on était une région d'une union fédérale, si l'Europe, c'était un État fédéral comme les États-Unis, dans les États fédéraux, il y a des régions qui peuvent se désindustrialiser complètement. Dans un État fédéral, les individus circulent, il y a des transferts de revenus, et donc le fait qu'une région n'ait pas d'industrie n'a absolument aucune importance, puisque c'est compensé par les transferts de revenus liés au fédéralisme. Personne n'est en train d'expliquer qu'il faut réindustrialiser, je ne sais pas quoi, le cause du Larzac ou la Lozère, quoi, je veux dire. Hein. Et aux États-Unis, personne n'explique qu'on va réindustrialiser la Floride, quoi. Mais ça ne marche que à cause de la structure fédérale. Hein, la Floride a un énorme déficit extérieur, mais les enseignants en Floride sont payés par les impôts de tous les Américains, hein, et ceci compense le déficit extérieur. Donc si on était dans une Europe fédérale, on pourrait avoir des régions qui deviennent des économies de services, et l'industrie, comme dans tous les pays, se mettrait simplement à certains endroits. Hein. Mais comme on est dans une Europe non fédérale, et probablement pendant longtemps, on a cette contrainte de ne pas accumuler de dette extérieure, hein, puisqu'on doit s'endetter si on a des déficits. Ces déficits ne sont pas compensés par le fédéralisme. Hein. Et ça... Vous voyez, on a l'air d'être assez loin de la désindustrialisation, mais on est en plein dedans. C'est-à-dire que les pays désindustrialisés d'Europe ne peuvent pas, sont forcément en crise, et on ne sait pas comment on va les sortir de la crise, parce qu'ils fabriquent forcément des déficits extérieurs, et que ceci n'est pas possible dans la situation institutionnelle de l'Europe, puisqu'on peut, même si on a la même monnaie, on ne peut pas s'endetter indéfiniment. Hein, c'est pas parce que vous avez la même monnaie que votre banquier qui va vous prêter jusqu'à la fin des temps. Et c'est la même chose entre les Espagnols et les Allemands. Donc je crois que c'est très grave de ne plus avoir d'industrie. Hein. Alors, à nouveau... Après, peut-être on dira un mot des causes, mais effectivement, juste pour finir sur l'ampleur du phénomène, la France est le pays où le phénomène est le plus violent en France.
Hein, en Europe.
C'est le plus, enfin, c'est en France que le phénomène est le plus violent par rapport à tous les pays comparables que vous pouvez regarder. Hein. Si vous regardez la part de marché de la France dans le commerce mondial à la création de l'euro en 99 et aujourd'hui, nous avons perdu 45% de notre part de marché dans le commerce mondial, qui était celle de 99. En 99, la France, c'était 6,5% du commerce mondial. J'enlève le pétrole, hein, du commerce mondial hors énergie. Aujourd'hui, c'est 3,5%. Hein, c'est monstrueux, quoi. Hein, donc, si vous regardez le poids de l'industrie dans l'économie, le pays le plus bas après la Grèce, c'est la France. Hein. Et après, vous trouvez plus haut que nous l'Espagne, le Portugal, et bien plus haut que nous des pays comme l'Italie ou l'Allemagne ou la Suède, etc. Donc on a une ampleur de désindustrialisation qui est très supérieure à ce qu'on observe dans les autres pays de même niveau de vie ou de même caractéristique. Et le dernier point frustrant, c'est que ce n'est pas normal. C'est-à-dire, si vous dites « la Grèce est désindustrialisée », où le Portugal est assez désindustrialisé, vous trouvez que c'est quand même pas complètement étonnant. D'abord, c'est périphérique. Vous savez, l'industrie, ça n'aime pas être très loin de ses clients, quoi. Donc mettre des usines en Grèce, hein, pour vendre aux clients européens, ce n'est pas évident. Deuxièmement, c'est des pays qui ont des problèmes de qualification de leur main-d'œuvre. Il y a 70% des Portugais dans la population active qui n'ont pas dépassé l'école primaire. Hein, et donc effectivement, c'est aussi un problème de qualification. Et puis, il y a des problèmes d'infrastructure, parfois de transport, des problèmes... quand vous regardez le cas français, qualification, école d'ingénieur, infrastructure de transport, prix de l'énergie très bas, position assez centrale en Europe, passé industriel, grand groupe industriel hein, dans des grandes entreprises, il n'y a aucune explication qui semble raisonnable au fait que la France se soit désindustrialisée à ce point. Donc, on peut expliquer la Grèce... Mais la France, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est vraiment une anomalie quoi, par rapport à ce que normalement on attendrait du pays compte tenu de sa situation et de ses ressources.
J'allais y venir.
Oui, mais on va revenir peut-être après sur réindustrialiser, ça veut dire quoi mais
voilà. Alors, justement, maintenant que vous avez fait un état des lieux assez pessimiste, inquiétant tout de même, de la situation, on va essayer de voir avec vous quelles sont les causes de cette désindustrialisation avant, tout à l'heure, d'aborder... des solutions, pas que tout le monde reparte avec une idée très négative.
On a plein de solutions, il y a des tâches de solutions.
Voilà, alors justement dans les causes, les questions qui viennent à l'esprit, est-ce la faute des 35 heures? Est-ce la faute d'un système social contraignant? D'une fiscalité trop importante? En quoi décider de garder les cerveaux, par exemple, en France pour concevoir les produits et délocaliser leur fabrication dans les pays émergents, est-ce une mauvaise opération ?
Ben j'ai l'impression que quand on est... Alors, Yvan, c'est extrêmement important de comprendre les causes. Alors, si on fait un peu de politique, parce que là, on peut en ce moment, c'est quand même extrêmement... Dans le débat de la campagne présidentielle, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que pour la première fois, à la fois le Parti conservateur et le Parti socialiste ont la même analyse, qui est que notre problème économique, c'est un problème d'offre. hein, que c'est l'insuffisance de notre capacité d'offre, et en particulier d'offre industrielle. C'est comme la première fois que le Parti socialiste ne dit pas que notre problème est un problème de demande. Hein. Alors, il y a d'autres partis de gauche qui disent que c'est un problème de demande, mais pas le Parti socialiste. Donc, François Hollande dit ce qu'il faut corriger, c'est notre incapacité à fabriquer les produits industriels que nous consommons. Hein. Et c'est donc, quoi. Et donc, il y a quand même un consensus assez large dans le pays sur l'analyse que c'est un problème d'offre. Alors, quand on a dit ça après, on n'a pas beaucoup avancé, parce qu'il faut essayer d'identifier les vraies causes du problème d'offre. Si je reste dans la politique, ben, faudrait, ben, je dirais que j'en pense moi comme économiste, mais Sarkozy dit plutôt que c'est un problème de coût du travail, que le travail est trop cher en France et donc que l'industrie va dans des endroits où le travail est moins cher. Et Hollande dit plutôt que c'est un problème de financement, que le système financier français ne sait pas faire grandir les entreprises innovantes qui ont de bons produits et donc qu'il y a un problème de financement et donc qu'il faut réparer le financement. Alors tout ça est vrai. Il y a un problème de coût du travail. On a les mêmes salaires en France, charges sociales comprises, que les Allemands, ce qui parfois est utilisé comme argument pour dire qu'il n'y a pas de problème de coût du travail puisqu'on a les mêmes salaires que les Allemands. Mais il ne faut pas oublier que les Allemands ne fabriquent pas les mêmes produits que nous. Et pour dire les choses simplement, on essaie de fabriquer des Clio avec les salaires de BMW, ce qui est quand même compliqué. Et donc, il y a un problème de salaire, il y a un problème de financement. C'est assez difficile pour des très petites entreprises innovantes de trouver des financements. Les grosses PME trouvent assez facilement à se financer, bien sûr les grandes entreprises, mais les toutes petites entreprises en phase de début, on le sait, ont des problèmes de financement qui résultent de ce qu'il n'y a pas en France, comme ce qu'on trouve aux États-Unis, par exemple, des institutions, des fonds, des universités qui investissent dans les petites start-up innovantes. Mais il y a plein d'autres raisons. Et moi, je crois que les deux candidats n'ont touché qu'un tout petit bout des raisons en parlant du coût du travail et du financement. Je pense que il y a eu, comme raison additionnelle importante, une erreur depuis longtemps de stratégie quand on essaie de comprendre ce que c'est que la montée en gamme. J'avais écrit dans un livre, j'appelais ça le gaullisme motorisé. Hein. La montée en gamme en France, ça a toujours consisté à trouver 3 ou 4 créneaux, 3 ou 4 niches. Et donc, ça a été les Concorde, les Airbus, les centrales nucléaires ou les TGV. Et à mettre énormément de moyens, à la fois publics et privés, pour développer ces niches. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe pas bien. Mais c'est pas parce qu'on a 3 niches qu'on a une industrie qui a monté en gamme. Quand vous regardez l'industrie allemande ou l'industrie japonaise, ces industries fabriquent tout en haut de gamme. Donc, de la chimie, du papier, du plastique, du verre, des machines-outils, de l'acier. On peut tout faire en haut de gamme. Et donc, les pays industriels ne sont pas dans une logique de niche. Et c'est ça qui m'inquiète aussi un peu dans les discussions qu'on a avec François Hollande et son équipe. C'est, on a l'impression qu'il y a un retour au gaullisme en disant l'État va trouver 3 secteurs où on va pousser. Mais ça, c'est bien, mais si on fait que ça, je pense que c'est vraiment très très loin d'être assez. Alors que la logique allemande, par exemple, ou la logique italienne, l'Italie est un grand pays industriel exportateur. Hein, il y a 240 000 entreprises qui exportent en Italie, il y en a 85 000 en France, hein, c'est 3 pour 1. C'est de fabriquer tout. On peut faire des textiles d'intérieur, des robinets de baignoire, etc., des pommes de douche et des voitures, etc., en haut de gamme. Hein, donc on peut tout faire en haut de gamme. Donc je crois qu'il y a une erreur de conception dans cette idée française que c'est la niche qui est la façon de monter en gamme. Deuxième problème en France, quelque chose qui est tout à fait fascinant, c'est la disparition des PME dynamiques quand elles sont encore toutes petites. Et donc ça, c'est très bien documenté par un certain nombre de travaux qui ont été faits par l'INSEE, enfin par des universitaires. Nos PME ne deviennent jamais suffisamment grandes pour exporter, créer beaucoup d'emplois, créer beaucoup de produits. Elles disparaissent à un stade assez rapide, hein. Les PME qui disparaissent, ce sont les PME dynamiques, en croissance rapide, avec de bons produits et bien gérés. Et elles disparaissent pas parce qu'elles font faillite, elles disparaissent parce qu'elles sont vendues par leurs créateurs à des grands groupes. Et donc on a quelque chose qui est absolument stupéfiant. Toutes les PME qui dépassent 250 salariés, toutes, hein, alors on en a toujours 3 pour lesquelles c'est pas vrai, donc c'est pas toutes, enfin, disons quasiment toutes, n'atteignent jamais 500 salariés. Hein, entre 250 et 500 salariés, elles se font systématiquement acheter par un grand groupe. Et une fois qu'une PME est achetée par un grand groupe, elle a l'air de disparaître. C'est-à-dire qu'elle perd son dynamisme, soit parce que la bureaucratie du grand groupe est difficilement avalable par une PME, soit parce que le créateur, qui est en même temps en général l'innovateur, est parti. C'est quelque chose que vous ne voyez absolument pas du tout dans les mêmes proportions en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, enfin dans les pays où vous fabriquez des grosses PME qui, là, exportent, innovent, créent des emplois. Et c'est quelque chose qu'on avait vraiment regardé de très près et qu'on continue à regarder de très près avec le gouvernement et avec des chercheurs. Les raisons qui font que les créateurs d'entreprises à succès vendent leur entreprise vite. Et en fait, une espèce de découragement de l'entrepreneur à succès, hein, qui préfère, quand son entreprise vaut un peu d'argent, prendre l'argent, aller devenir golfeur belge, hein, en général, et passer la main. Hein, et donc une espèce de destruction du tissu des PME innovantes à un stade où elles sont encore petites, c'est donc où elles n'ont pas pu fabriquer ces gros. C'est pas les grandes entreprises la différence. Hein. Dans le CAC 40, vous avez 25 entreprises qui sont leaders mondiales, donc il n'y a pas de problème de CAC 40, simplement elles ne sont pas plus françaises que allemandes, chinoises, brésiliennes, elles sont ce que vous voulez. Quoi. Elles sont juste les cotées à Paris. Quoi. Enfin, le CAC 40 n'a absolument rien de français. Hein. Alors, d'ailleurs, c'est quelque chose aussi qui rend le débat compliqué, parce que les hommes politiques, soit quand ils parlent des entreprises, en réalité, ils parlent du CAC 40, donc on vous parle des profits du CAC 40, on fait pour 85% dehors de France, soit ils pensent que les entreprises vont bien, parce qu'ils ont en tête le CAC 40, alors que les PME vont plutôt mal, hein, et donc le CAC 40 biaise complètement la vraie vision qu'on devrait avoir des entreprises en France. La vraie vision, c'est qu'il y a un découragement, à nouveau, des créateurs et des dirigeants de PME innovantes, technologiques. Et alors, ce qui reste, c'est essentiellement un tissu de PME très défensive, qui sont solides, hein, ils ne font pas faillite dans les récessions, mais c'est des PME très défensives, qui n'ont pas de croissance, qui n'exportent pas, qui investissent très peu, qui ont des réserves de fonds propres, qui sont peu endettées, et qui sont solides financièrement, mais qui ne fabriquent pas de dynamisme économique. Hein. Et ça, voilà. Donc, je crois que c'est... Et là, on est dans la sociologie, presque, en disant pourquoi quand un type qui a créé sa boîte atteint 200 salariés et qu'un grand groupe vient lui en proposer 15 millions, pourquoi il prend le chèque et il part en courant, quoi, hein. Et c'est bien documenté que c'est ça qui se passe. La raison, c'est le découragement, je pense. Je pense qu'en France, l'environnement est hostile aux patrons de PME qui réussissent. Par rapport à ce que vous trouvez en Suède ou au Canada, par exemple. L'environnement, les relations avec l'administration, avec la sécurité sociale, avec les syndicats, avec les banquiers, enfin. Donc il y a un environnement hostile qui fait que les gens n'ont pas envie de devenir gros. Et je crois que c'est un vrai, vrai problème qu'il faut regarder. C'est pas du tout anecdotique. C'est un problème qu'il faut regarder d'extrêmement près. Voilà. Donc je crois qu'il y a un problème de coût du travail, qui est d'ailleurs, comme vous savez, un problème de charge sociale et pas un problème de salaire. Les salaires en France sont bas, c'est les charges sociales qui sont très élevées. Si on voulait avoir en France le financement moyen européen de la protection sociale, il faudrait réduire d'un tiers les charges sociales portées sur les salaires et transférer ça sur d'autres impôts, hein, en particulier sur des impôts directs sur les revenus. Il faudrait donc baisser d'un tiers les charges sociales pour retrouver le financement moyen européen de la protection sociale en France. Donc on a un système fiscal qui est incroyablement différent de celui des autres pays, avec ce rôle colossal des charges sociales sur les salaires pour financer la protection sociale, y compris les bouts de la protection sociale, qui sont du domaine de la solidarité et pas du domaine de l'assurance. Et puis, il y a l'aspect sociologique dont j'ai parlé. Hein, et puis, il y a sans doute un problème de financement aussi, à nouveau sur une catégorie particulière, qui sont les toutes petites entreprises en création.
Et donc, la fermeture, j'allais dire, en cascade d'usines comme ArcelorMittal, dont on a parlé, Continental, Molex, enfin, je veux dire, la liste est très, très, très longue. La fermeture de ces usines aurait pour raison la délocalisation dans des pays émergents comme la Chine, par exemple. Est-ce que c'est une bonne chose ?
Alors, après... je crois le problème profond, et je reviens là-dessus, le problème profond, c'est... Quand arrivent les pays émergents, si on continue à fabriquer les mêmes biens qu'eux, on a évidemment d'énormes problèmes. Donc quand vous regardez les pays qui sont restés industriels, sont des pays, alors appelons pas ça monter en gamme, parce que c'est pas forcément monter en gamme, ce sont des pays qui arrivent à différencier leur production par rapport aux productions des pays émergents. Ils fabriquent pas les mêmes produits. Prenez la Clio, qui est un exemple que j'ai regardé et que je trouve assez fascinant. Donc vous citiez le chiffre, Renault ne fabrique plus que 20% de ses contenus de voitures en France. Une Clio, ça se vend en moyenne 9000 euros quand vous prenez tous les modèles. Le constructeur a 400 euros de marge. Et si on devait la fabriquer en France, elle coûterait 14000 euros à fabriquer. Donc vous ne pouvez pas fabriquer de Clio en France. C'est juste impossible. Parce que c'est un produit non différencié par rapport aux produits similaires qu'on peut fabriquer en Inde, en Roumanie, en Russie, en Turquie, etc. Si vous faites des BMW ou des Mercedes, évidemment, vous pouvez les fabriquer en Allemagne. Et donc, je crois que le vrai problème, c'est la différenciation de produits. Si on fabrique les mêmes produits que les émergents, donc un haut fourneau, alors c'est des discours qui sont extrêmement durs. Moi, je suis allé à Thionville, etc., faire des conférences. Alors, c'est sûr que l'atmosphère est moins feutrée que ce soir ici. Faire ça à Thionville, fou. Et puis, on a discuté, mais vous voyez, le problème, vous ne pouvez pas imaginer qu'on va garder en France un haut fourneau normal, quoi, je veux dire. C'est juste pas possible, je veux dire, il n'y a aucune... Ou alors il faut que l'État subventionne massivement toutes sortes d'activités. Hein. On ne peut pas fabriquer en France une voiture milieu bas de gamme. C'est pas possible. On ne peut pas fabriquer du textile standard. Donc il faut se différencier. Se différencier, c'est pas forcément faire des trucs compliqués. J'en reviens sur mon idée de niche. Regardez, les Italiens font du textile pas standard. Ils font des baignoires pas standard. Quand vous allez en Chine dans les hôtels, les baignoires sont italiennes. Et les rideaux aussi, quoi. Donc, le luxe. Qu'est-ce qui reste en France comme industrie différenciée, hein, c'est pas très compliqué. Il y en a trois. Il y a l'aéronautique, le luxe et la pharmacie. Quand vous regardez les chiffres du commerce extérieur, c'est les trois industries où la France a réussi à se différencier des producteurs émergents. Et sur la pharmacie, vous savez que c'est assez fragile, parce qu'il y a des pays comme l'Inde, etc., qui avancent à toute allure. Donc notre problème, c'est la non-différenciation de nos produits. Et à ce moment-là, le critère d'achat d'un produit non différencié, c'est son prix. Évidemment, on n'a aucune capacité à vendre des produits au même prix que les émergents. Et donc, c'est pour ça que l'urgence... Peut-être parler avant de parler des vrais remèdes, peut-être parler un peu des faux remèdes avant, mais il me semble que l'urgence, rappelons ça, monter en gamme, mais oui, c'est assez trompeur, monter en gamme. Je vais raconter une anecdote qui est chez Alcan. Alcan, c'est ex-Pechiney en France, c'est des gens qui ont de l'aluminium. Et donc, je connais une jeune femme qui était présidente jusqu'à une période récente d'une filiale d'Alcan, qui est la filiale qui fait les films d'aluminium. Et alors, elle faisait des films d'aluminium dans des usines qui font des films d'aluminium, hein, et elle perdait tout l'argent qu'elle voulait. Et donc, la direction générale d'Alcan lui a dit, bah, écoutez, vos usines d'aluminium en France, de films d'aluminium, on va tout fermer, on va les coller ça en Chine. Et elle s'est dit, mais moi, je sais faire du film d'aluminium, mais pourquoi je le vends tout plat comme ça? Et donc, elle est allée voir des distributeurs, des producteurs d'agroalimentaire, elle a dit, bah, je peux vous faire des choses sur mesure. Je peux vous faire des boîtes avec des oreilles, etc. Et sur des petites séries, etc. Et elle a fait ça. Et cette filiale d'Alcan gagne un maximum d'argent en faisant ça aujourd'hui. Au départ, c'est la même machine. Hein. C'est un truc qui crache du film d'aluminium. Simplement, après, elle a mis du design, du service, de l'écoute du client. Et ça, les Chinois ne savent pas faire. Et du coup, ils sont restés en France et ils gagnent de l'argent. Donc, vous voyez, la différenciation de produits, ce n'est pas forcément l'espace. Hein. Ça peut être des produits assez simples. Dans l'agroalimentaire, je veux dire, quelle est la misère qui fait que la France a maintenant un déficit commercial pour l'agroalimentaire. Donc, regardez ce qui se passe aux Pays-Bas. Les Hollandais ont décidé qu'ils allaient essayer de se différencier, de faire des produits plus sophistiqués. Donc voilà, donc je crois que le vrai sujet, c'est... Et alors, ça pose une question très douloureuse, qui est de dire qu'est-ce qu'on dit aux salariés des vieilles industries. Quand vous rencontrez... Et c'est horrible, quoi, je veux dire. C'est vraiment horrible. Les salariés qui fabriquent des biens... Donc vous, comme économiste, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'avenir en réalité sous cette forme-là, quoi. Qu'il faudrait effectivement différencier, faire des choses plus compliquées. Et on peut le faire, hein, on peut le faire, mais probablement pas sur les mêmes échelles. Et donc, je crois que c'est pas une bonne idée de passer le message qu'on va pouvoir garder ces industries qui sont strictement banales par rapport à ce que savent fabriquer des pays où le coût du travail est trois fois plus bas qu'ici. Je crois que ce n'est pas un bon message à passer, c'est entretenir des illusions. Et donc, il faut fabriquer de nouvelles industries, comme ont su le faire à nouveau les Japonais, les Finlandais, les Suédois, les Danois, etc., les Canadiens. Il faut fabriquer de nouvelles industries qui vont embaucher les salariés des vieilles industries. Mais je crois défendre les vieilles industries, quand c'est des industries à nouveau totalement banalisées par rapport au savoir-faire des pays émergents, je pense qu'on ne peut pas y arriver. Alors c'est très très dur comme message, on ne se fait pas forcément mieux recevoir en passant ce message-là, mais je pense que ça serait un très mauvais usage de l'argent public, hein, que de subventionner... Enfin, au-delà d'une période d'ajustement, parce que bien sûr, il faut donner un peu de temps, mais se dire on va se forcer à garder un certain nombre d'industries qui sont pour lesquels on peut avoir exactement le même produit fabriqué dans les mêmes usines dans un pays émergent, je pense que c'est pas la politique qu'ont suivi les pays qui ont réussi. Hein. Ils ont fabriqué d'autres produits.
Alors justement, avant de passer aux solutions, dans votre ouvrage, vous parlez du vin de Bordeaux. Nous sommes à Bordeaux.
Oui.
Et justement, pour revenir sur la différenciation de produits dont vous avez parlé à propos des plaques d'aluminium, l'exemple que vous avez donné, vous écrivez dans votre chapitre premier que les saucisses de Francfort s'exportent mieux que le vin de Bordeaux.
C'est en euros, hein, c'est un truc numérique.
Alors justement, nous sommes à Bordeaux, ça peut être étonnant, bien que ce soit des produits complémentaires, si j'ose dire.
Enfin, sur le vin de Bordeaux, saucisses de Francfort sur le vin de Bordeaux, c'est un peu un scandale. Mais enfin,
c'est plutôt le vin de Bordeaux sur les saucisses de Francfort.
Ouais, enfin bon, même ça.
On est d'accord.
Même ça, c'est pas terrible.
Non, on est d'accord.
Ouais, la saucisse Francfort, c'est pas franchement un produit différencié, mais non, on voulait quand même montrer. Enfin, on voulait. C'était pour insister sur le point que je mentionne au début, c'est de dire même là où on pense que la France a un avantage comparatif important, c'est même plus vrai, quoi. Je veux dire. Et donc, l'agroalimentaire au sens large n'est plus une industrie forte en France. Le volume des exportations, d'ailleurs, en agroalimentaire de la Hollande est supérieur à celui de la France, hein, ce qui est quand même déprimant quand on y réfléchit, surtout quand on bouffe les tomates hollandaises qui n'ont aucun goût, mais parce que je pense qu'il y a eu plus grande réflexion en Hollande sur quelles étaient les attentes du consommateur, sous quelle forme est-ce qu'il voulait consommer, quelle était la façon dont il fallait leur apporter les biens, donc c'est... C'est un problème aussi, là, d'être... On n'est pas capable d'organiser des filières en France. Quand vous regardez les filières, il y a très peu de filières organisées. C'est-à-dire des filières où, depuis le producteur, en passant par le transformateur jusqu'au distributeur, il y a une espèce d'organisation de la filière. Les Allemands ou les Hollandais, dans l'agroalimentaire, le font extraordinairement bien.
Oui.
Hein, en partant des paysans, des agriculteurs, en passant par les transformateurs, les grossistes, l'agroalimentaire, la distribution, c'est extrêmement bien intégré. Et nous, ce n'est pas du tout intégré. C'est-à-dire que les gens qui élèvent des cochons en Bretagne, les exportent pour qu'ils soient transformés. Donc il n'y a pas eu d'intégration avec des transformateurs qui seraient installés autour des fermes. La seule industrie en France qui a fait cette intégration et qui a construit cette filière, c'est l'aéronautique. Là où il y a une intégration complète depuis les plus petits sous-traitants jusqu'à chez Airbus, quoi, EADS. Mais c'est vraiment l'exemple unique d'une industrie qui a réussi à fabriquer une filière intégrée avec une coopération entre les différents niveaux de la filière. Donc l'agroalimentaire ne le fait pas, quoi. Je veux dire, c'est chacun pour soi à tous les niveaux.
Très dommage. Alors justement, on va passer aux solutions. Que préconisez-vous contre la fuite de l'industrie, d'une part, et d'autre part, que faire des territoires sinistrés comme Florange, par exemple?
Alors, on a écrit un chapitre entier dans le bouquin sur la démondialisation en disant tout le mal qu'on en pensait, mais pas pour des raisons, je dirais, théologiques, hein, parce que je pense que ceux qui prônent la démondialisation ne comprennent pas la nature du processus de mondialisation qu'on a aujourd'hui. Si on était attaqué, qui est très différent de ce qu'on a vu dans les années 80 ou 70. Dans les années 70-80, par exemple, vous voyez arriver les producteurs japonais de voitures. Donc tout d'un coup, Honda, Toyota mangent les producteurs américains ou européens de voitures. Et on a réagi en se protégeant, puisqu'on a mis des quotas sur les voitures japonaises inventées en Europe. Et si vous êtes attaqué par un producteur émergent qui arrive sur vos marchés, la protection a du sens. Il y a même des cas en théorie économique où il faut le faire. Hein, et en particulier, ça a du sens si ce producteur étranger n'a pas du tout les mêmes normes sociales que vous, n'a pas les mêmes normes environnementales que vous. Donc si notre problème aujourd'hui, c'était d'arriver des tonnes d'entreprises chinoises qui viennent manger nos entreprises, on pourrait, à mon avis, avoir un débat sérieux autour du protectionnisme sous une forme ou sous une autre. Protectionnisme, ça peut être des quotas, ça peut être des droits de douane, ça peut être la compensation de ce qu'on ne traite pas de la même façon, le CO2, etc. Bon. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les grandes entreprises ont coupé en rondelles les processus de production. Donc ce qu'on importe en France ou en Europe, ce n'est pas les produits d'une entreprise chinoise qui vient nous concurrencer, c'est les produits fabriqués en Chine par nos entreprises. 70% des exportations de la Chine sont des exportations faites par des entreprises en Chine à capitaux étrangers. Donc ce que vous achetez, ce n'est pas des voitures chinoises, c'est des bouts de Renault faits en Chine. Si vous vous protégez contre ça, le seul truc qui se passe, c'est que les Renault sont plus chers. Hein, si vous taxez les bouts de Renault faits en Chine qui arrivent en France, bah, simplement, comme Renault continuera à les importer quand même, bah, vous paierez juste plus cher. Les Américains viennent de s'en apercevoir, ils ont mis une taxe sur les pneus chinois. Bah, juste les voitures sont devenues plus chères, parce que de toute façon, ils continuaient à acheter les pneus chinois vu qu'ils n'avaient pas eux les pneus, et ils les payaient plus cher. Donc, il faut voir que c'est la mondialisation que nous avons aujourd'hui, donc c'est ce processus de segmentation hein, de la production entre les pays. Alors, vous connaissez tous, parce qu'il y a eu plein d'articles qui ont été faits, il y a une belle étude de l'Organisation mondiale du commerce sur l'iPhone. Hein. L'iPhone, il est fabriqué dans une trentaine de pays. Hein, qui sont, y a des bouts comme ça. Il est finalement monté en Chine, mais la Chine, ça ne représente que 7% de la valeur ajoutée dans un iPhone. C'est marqué « Made in China » là-dessus. Si vous mettez des droits de douane sur un iPhone en croyant que vous allez taxer la Chine, bah, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Il y a 30% de la valeur ajoutée d'un iPhone qui est fabriqué aux États-Unis, qui vient des États-Unis, parce que c'est la conception, les royalties. La Chine, 7%, et c'est marqué « Made in China ». Donc c'est la production, le lieu de production n'a plus aucun sens puisque tous les produits sont fabriqués dans plein d'endroits. Hein. Il y a une espèce de spécialisation et puis ensuite on remet tous les bouts ensemble à un certain moment. Et donc, vous ne pouvez pas vous protéger contre ça par le protectionnisme. Ça veut dire quoi mettre des barrières aux frontières de l'Europe? Ça veut juste dire que y a certains trucs qu'on n'aura plus. Et puis le reste sera plus cher. Quoi. On n'a pas de substitut domestique. À nouveau, ce n'est pas comme si Chery, qui est un fabricant chinois de voitures, vous n'avez pas des concessionnaires Chery partout dans les rues. Hein. Ce n'est pas ça qui se passe. Ce n'est pas Chery qui vient manger nos parts de marché. Si c'était le cas, on pourrait mettre des droits de douane sur les Chery. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que quand vous achetez une Renault ou n'importe quoi, il y a plein de bouts dedans qui viennent d'Inde, de Chine, de Taïwan, de Malaisie, de Russie, de Roumanie, de Slovénie, de Slovaquie, etc. Et vous n'y pouvez rien. C'est comme ça que les entreprises sont mondialisées. Vous n'allez pas démondialiser les entreprises. Hein. Et donc, la seule solution, c'est de monter en gamme, à nouveau, c'est-à-dire de fabriquer des produits que les émergents ne savent pas produire. Mais vous ne pouvez pas... Le protectionnisme sous sa forme traditionnelle ne marche plus dans cette configuration-là, puisque ce qu'on importe, on ne le fait plus. Hein, puisqu'on a décidé de le mettre ailleurs et de façon très irréversible. Donc, voilà. Alors, deuxième... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai un de mes collègues, mais qui s'appelle Yann Algan, que vous connaissez peut-être, qui est à Sciences Po à Paris, et je vous conseille, je ne devrais pas faire de la publicité pour les livres des autres, mais Yann a fait un livre absolument formidable sur la société de la coopération. Ben, je crois que quand vous regardez les endroits où ça marche, ce sont des endroits où il y a une coopération entre tous les acteurs. En général, les collectivités locales, c'est rarement les États, les régions le plus souvent, hein, ou les grandes collectivités locales, les grandes entreprises, les PME, les universités, les financiers hein, qui apportent des fonds, etc., etc. Vous trouvez ça... Alors, parfois, on trouve ça... en France, typiquement Lyon, quoi, le Grand Lyon. Ça marche assez bien comme ça.
Eulièze, peut-être hein. Eulièze en Poitou-Charentes ou
alors, le Grand Ouest, oui. Lyon, investi. Grenoble. Mmh. La région parisienne, c'est la catastrophe inverse totale, par exemple. Et nous, mais par rapport à ces régions qui marchent, on peut parler alors à l'étranger, la Göteborg en Suède, la Lombardie-Vénétie en Italie, la Bavière en Allemagne. Nous, on a vraiment très très peu d'exemples à montrer, et c'est pas ça le modèle français. Le modèle français, c'est un modèle de conflit. Les grands groupes sont en conflit avec leurs sous-traitants, de façon incroyable et incessante. Vous voyez ça nulle part ailleurs. Les grands groupes allemands font la promotion des PME qui sont leurs sous-traitants pour qu'elles grandissent, pour qu'elles aillent mieux, pour qu'elles investissent, pour qu'elles exportent. Les grands groupes français égorgent leurs sous-traitants simplement pour faire baisser les prix des pièces, quoi. Hein. L'administration n'aime pas les entrepreneurs. Il y a une enquête d'Ernst & Young assez drôle. D'ailleurs, ils ont fait une enquête dans 150 pays auprès de beaucoup, beaucoup de patrons de PME. Et il y a une des questions qui est, est-ce que l'administration de votre pays vous aide? Alors, il y a 98% des entrepreneurs indiens qui disent oui, 75% des Allemands qui disent oui, 85% des Canadiens qui disent oui et 80% des Français qui disent non. Hein, il y a quand même un truc. Et donc, l'administration est plutôt en conflit avec les entrepreneurs. Enfin, il y a sûrement dans la salle des gens qui ont fait l'expérience un jour de créer une entreprise. Comparez ce que vous recevez de l'administration quand vous créez une entreprise en France et ce que vous recevez de l'administration canadienne, par exemple. Hein. Et donc voilà, on est. Et puis, Il y a des conflits, il n'y a pas du tout, par exemple, le rapport entre le patronat et le syndicat n'est pas du tout le même en France qu'en Allemagne, par exemple dans les Nordiques. Ce n'est pas que les syndicats sont dans les pays nordiques ou en Allemagne, sont des mous, hein, ce n'est pas du tout des mous. Les syndicats allemands, ils ne rigolent pas du tout. Mais il y a une façon de travailler avec le patronat qui est d'essayer de trouver un compromis, de trouver des solutions. Et donc, tu vas me donner ça sur les salaires et je vais te donner ça sur l'emploi. Donc, voilà. Et donc, Yann Algan montre que... Typiquement, la France est une société qui s'oriente, qui marche autour des conflits. Hein. Alors que la société des pays nordiques, par exemple, tourne autour de la... À partir de la Hollande, de la Danemark, la Suède, etc. Et même l'Allemagne tourne autour de la coopération. Et alors, ce qui est marrant chez Yann Algan, c'est qu'il dit que ça vient de l'école. Ça vient de la façon dont on enseigne aux tout petits gamins. En France, c'est un enseignement de type vertical. Donc le maître écrit... Alors même, il a chronométré. Hein. Le maître écrit au tableau le cours que le petit doit apprendre et ça utilise exactement 82% du temps d'une classe, hein, que le maître écrive au tableau. Et comme en général, le maître copie un manuel, le gamin a deux fois le manuel. Hein, celui qui l'a recopié avec les fautes de frappe, pile vrai, quoi, hein, avec les fautes d'orthographe. Alors qu'en Finlande, par exemple, qui est l'exemple inverse, ça ne se passe pas du tout comme ça. Les gamins travaillent en groupe. Ils ont dû préparer, ils travaillent en groupe, ensemble, donc c'est un système horizontal, et l'instituteur n'intervient que quand il coince, quoi, je veux dire, mais il n'y a pas de dispense verticale du savoir. Hein. Et alors Algan dit que c'est ça qui fabrique dans les pays scandinaves la culture après de coopération, alors qu'en France, ça fabrique la culture verticale. Quoi. Il y a des donneurs d'ordre et des sous-traitants. Quoi. Donc voilà, et je pense que c'est très important. Aux États-Unis, il y a une administration qui s'appelle la Small Business Administration. C'est une administration qui intermédie les PME dans tout leur rapport avec l'administration. Un patron de PME qui a un problème fiscal ou un problème de sécurité sociale, etc., aux États-Unis, il n'appelle pas l'administration. Il appelle son conseiller à la Small Business Administration qui, lui, va traiter le problème avec l'administration. Oui, c'est toujours l'idée de dire comment on fait pour que les gens coopèrent. Quoi. Voilà. Alors, ça, je crois que c'est le premier élément. La macroéconomie, j'y reviens pas, on a parlé. Il y a les problèmes les impôts, quoi. Je veux dire, notre structure fiscale est démente, quoi. Je veux dire, on peut pas avoir la moitié des impôts qui soient des charges sociales assises sur les salaires. C'est juste pas possible, alors que le standard mondial, c'est un petit tiers, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème. Il faut qu'on réforme complètement notre système fiscal, mais ça, tout le monde le sait. Mais personne ne le fera jamais.
Dans les programmes des candidats
Il n'y a que dalle. Enfin, c'est du peanuts. Oui, je veux bien, mais ça consiste à rajouter encore une couche au millefeuille. Quoi, je veux dire, mais c'est pas la remise à plat où on dit mais on va financer autrement la protection sociale avec d'autres impôts, on va changer les grandes masses des impôts, voilà. Donc personne n'ose faire ça parce qu'effectivement il y a un risque bureaucratique, quoi, c'est compliqué, quoi. Et puis dernier point, à nouveau, ce que je voudrais dire, il faudrait être capable de, il y a un débat intéressant en disant quel est le rôle relatif de l'État, des entreprises, de l'université. Il faudrait être capable d'identifier les nouvelles industries qui vont créer plein d'emplois. Bon, l'industrie des nouvelles technologies, on a dit tout à l'heure que ça n'avait pas créé assez d'emplois, ça en a quand même créé pas mal. Quand vous créez 3 ou 4% d'emplois en France, ça voudrait dire qu'on serait capable de retrouver une industrie aujourd'hui qui créerait 1 million d'emplois nouveaux. Ça serait vachement bien de créer 1 million d'emplois nouveaux. On ferait baisser de 40% le chômage, quoi. Donc, c'est à peu près ça ce qu'a apporté l'industrie des nouvelles technologies, mais c'est entre 1995 et 2000, hein, puisque après, c'est une industrie mature qui ne crée plus d'emplois. Donc, qu'est-ce qu'on a comme industrie qui pourrait créer 1 million d'emplois nouveaux ? Alors moi, j'ai fait le tour, quand j'en ai écrit le bouquin, on a fait le tour de toutes les administrations et de tous les think tanks. Il n'y a que deux idées, hein, et elles sont triviales. La première idée, c'est les énergies renouvelables. Et là, on s'aperçoit que l'État français a fait, dans les dernières années, un gâchis incroyable en s'y prenant d'une manière absolument ridicule, et en particulier... Alors peut-être que dans l'éolien... Moi, je ne suis pas un fanatique de l'éolien, je suis un fanatique du solaire. Et dans le solaire, la truc était dramatique, puisque l'État français a cru que la bonne idée, c'était de subventionner la pose des panneaux solaires. Donc on s'est mis à poser des tonnes de panneaux solaires, dont 98% étaient importés de Chine, ce qui avait assez peu de chances de fabriquer une industrie française du solaire, quoi. Donc évidemment, il ne fallait pas subventionner la pose, il fallait subventionner la production, et pas le consommateur. Et donc, on est complètement outé, mais il n'y a pas que nous. Hein. Les Allemands aussi commencent à l'être du marché du solaire, qui va devenir un monopole chinois comme la plupart des autres trucs. Quoi, hein. Peut-être dans les trucs très, très compliqués, un peu d'Américains. Mais il y a d'autres choses dans les énergies renouvelables. Hein. Il y a les biomasses de dernière génération. On est un grand pays agricole avec toutes sortes de surfaces en jachère. Où sont les labos top mondiaux sur les biomasses de troisième génération? Vous savez, les trucs qu'on met des bactéries, hein, dans les végétaux et ça fabrique des hydrocarbures. Ils sont au Brésil, hein, et en Californie. C'est quand même horrible, quoi, quand on veut... Bon. Donc, voilà. Et puis, la deuxième grande idée, c'est la rénovation de l'habitat. qui est effectivement un truc énorme. Quoi. C'est en fait d'appliquer les normes environnementales, pas seulement aux nouvelles constructions, mais aussi aux vieilles constructions. Ça, c'est des centaines de milliers d'emplois sur des dizaines d'années. Ça ruinerait tous les propriétaires, hein, parce que ça coûte extrêmement cher, mais ça serait quand même de l'emploi public. Il faudrait regarder de près cet effet, hein, l'économie de cette idée, parce que dans le même temps, le seul endroit où on peut faire des économies d'énergie aujourd'hui, c'est là. Parce que les voitures, quand elles consommeront 3 litres au 100, on pourra peut-être aller à 2 litres 8, mais enfin, on a fait le gros du chemin. L'industrie a fait tout le chemin sur les économies d'énergie. Le seul endroit où on n'a fait rien sur le chemin, c'est sur l'habitat. Cette très belle salle, c'est un truc, c'est une catastrophe environnementale. Je veux dire, je pense que 90% du chauffage d'hiver part dans la rue, quoi. Donc, donc voilà. Mais on n'a pas des tonnes d'idées. Vous voyez, alors les biotechnologies, c'est pas nouveau. Ça fait comme 10 ans que ça existe. On voit à peu près ce que ça apporte, tout ce qui est nano, etc. Donc les deux grands machins. Mais vous voyez, c'est ça, à mon avis, qu'il faut faire. C'est identifier et là faire travailler ensemble tout le monde, quoi. Et l'endroit où on va créer 1 million d'emplois, mais pas essayer de garder les hauts fourneaux, quoi. Je crois que malheureusement, ça, on peut pas, quoi. Je veux dire, garder les hauts fourneaux, on n'a pas gardé les jeans ni les godasses de sport, Et puis il faut que l'État, à nouveau, il faut que l'État s'y prenne bien. Le solaire, ça prouve que les gens, enfin, on va dire du mal de mon ancienne élève Nathalie Kosciuszko-Morizet, quoi, que j'ai eu comme élève à Polytechnique, qui est la polytechnicienne la plus emmerdante que j'ai jamais vue, mais c'est une fille très charmante. Mais là, c'est une erreur stratégique incroyable. On subventionne pas le consommateur quand on veut fabriquer une énergie nouvelle. On subventionne le producteur. Et comme ça fait baisser le prix du bien, du coup, il y a plus de consommateurs. Mais on ne va pas donner de l'argent au consommateur qui, en plus, après, va aller acheter le truc le moins cher sur le marché, qui est chinois, quoi. Donc il faut aussi un peu réfléchir, quoi.
Vous avez quelques usines, qui relocalisent. Alors, je pense à Rossignol. Je sais ce que vous en pensez, justement.
Ils sont des voisins.
Oui, alors, bon, est-ce que la relocalisation peut être une solution possible, envisageable, du moins?
À nouveau, il faut faire très attention. Il y a des relocalisations. Alors, on a tous regardé Rossignol. Enfin, moi, je suis un peu au Savoyard, donc Cluse, je vois ce que c'est. Hein. Et ça lanche. Mais les relocalisations que vous avez, ne sont pas du tout un phénomène macroéconomique. Quand vous regardez les chiffres, en ce moment, nous avons une accélération des délocalisations. Donc, l'effet macro, c'est pas qu'on relocalise, c'est qu'on délocalise de plus en plus. Et en général, les relocalisations, vous apercevez que c'est des gens qui n'auraient jamais dû délocaliser. Faire des skis en Asie, il faut quand même mettre ma boule, quoi, je veux dire. Donc c'est des erreurs, en fait. C'est des gens qui ont cédé à la mode, hein, en disant « je vais aller chercher du salaire pas cher », etc. J'ai oublié de dire un truc, ça me donne l'occasion. Quand les Allemands délocalisent dans les émergents, c'est pas pour aller chercher de la main-d'œuvre peu qualifiée pas chère. Il y a une universitaire à Munich qui s'appelle Marine, qui est une collègue que je connais bien, qui a fait des travaux extraordinairement intéressants, qui montrent que les délocalisations allemandes sont des délocalisations où les entreprises allemandes sont allées chercher les salariés les plus qualifiés des pays émergents. Ce que les Allemands sont allés chercher en Europe centrale, c'est des ingénieurs d'Europe centrale moins chers que les ingénieurs allemands. Et en plus, c'est pas que moins cher, c'est que les ingénieurs allemands, il n'y en a plus, parce qu'on est au plein emploi radical pour les ingénieurs en Allemagne. Tandis que les Français sont allés en général chercher de la main-d'œuvre peu qualifiée, pas chère. Et ça, c'est aussi la base de l'effet de gamme. Porsche fabrique un des gros morceaux de ses voitures à Bratislava, en Slovaquie. Quand vous regardez la structure de la main-d'œuvre chez Porsche à Bratislava, le niveau de qualification moyen est plus élevé que chez Porsche en Allemagne. Renault fabrique des bagnoles bas de gamme en Inde, en Russie, en Roumanie, etc., avec de la main-d'œuvre peu qualifiée, peu chère. Donc il y a les délocalisations allemandes ont tiré vers le bas la gamme de produits. Les délocalisations allemandes ont permis de baisser le coût du haut de gamme, en allant chercher la main-d'œuvre qualifiée peu chère. Et quand vous baissez le coût du haut de gamme, vous restez dans le haut de gamme, vous gardez vos parts de marché dans le haut de gamme, et à la fin du truc, vous créez aussi des emplois en Allemagne. Donc les délocalisations allemandes, maintenant, elles créent des emplois en Allemagne, par l'effet de parts de marché. Donc il faut faire très attention, quand on parle de délocalisation, il y a vraiment plusieurs modèles, quoi.
Mais si le coût de l'énergie est tel que ça coûte beaucoup plus cher, justement, de fabriquer loin, est-ce que ça ne peut pas être une solution, Une des raisons pour lesquelles on relocaliserait en France.
Oui, mais cet argument est beaucoup utilisé. Il vaut que pour le transport aérien. Oui. Hein, le transport maritime, ça coûte à peu près rien. On peut transporter à peu près tout si on n'est pas pressé et ça coûte rien.
Le transport terrestre.
Hein, le transport terrestre, c'est un peu plus cher. Non, le gros, ce qui est vraiment cher, c'est le transport aérien. Et donc effectivement, comme les prix de l'énergie vont continuer, enfin de cette énergie-là, du pétrole, hein, va continuer à monter. On va sûrement avoir une diminution globale de ce qui se transporte par avion. C'est pas le cœur du sujet. Enfin, ça sera plus dur d'avoir des fraises d'Afrique du Sud au mois de février. Est-ce qu'on a vraiment besoin de bouffer des fraises d'Afrique du Sud au mois de février, d'ailleurs? Mais vous voyez, les produits industriels, ça se met sur des bateaux, quoi. Je veux dire, c'est assez rare qu'on ait besoin de... Enfin, ça dépend un peu. Il y a des gens, par exemple, qui ont besoin d'avoir des délais de réaction extrêmement courts dans les livraisons. Donc, alors, si vous faites du luxe ou du haut de gamme dans le textile, vous êtes dans l'avion, quoi. Vous n'êtes pas dans le bateau. Mais le reste, vous voyez, les voitures, ça se met dans des bateaux. Les machines-outils, ça se met dans des bateaux. Le ciment, ça se met dans des bateaux. Donc, le transport naval, il est maritime. Il n'a jamais été aussi peu cher, d'ailleurs, qu'aujourd'hui. C'est pratiquement gratuit, le transport maritime, quoi. Donc, mais c'est vrai que cet argument est intéressant. Juste, ça me donne l'occasion de dire un mot d'un autre sujet qui fâche, qui est le gaz de schiste.
J'allais y venir, justement.
Alors, allez-y, je vous en prie.
Justement, à propos de, sur le recherche et développement, à propos du principe de précaution.
Oui.
Dans votre ouvrage, vous citez en exemple Pasteur et Marie Curie en disant qu'ils n'auraient pas pu faire les découvertes qu'ils ont faites si ce principe de précaution avait existé.
C'est vrai.
Et vous l'appliquez, justement, à l'exemple du gaz de schiste.
Marie Curie, elle en est morte, d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est vrai.
Et on n'aurait pas les TGV. Il y a un article très, très, très intéressant de Guillaume Pépi, c'est le président de la SNCF, qui démontre qu'aujourd'hui, on n'aurait pas lancé la recherche-développement sur le TGV. Parce qu'on aurait considéré que c'était trop dangereux potentiellement pour l'environnement, pour les passagers, que c'est une technologie non maîtrisée. Et donc, on n'aurait pas eu de TGV si c'était aujourd'hui qu'il avait fallu prendre la décision. Hein, et quand Giscard d'Estaing donne le feu vert, à l'époque, on ne parle pas de principe de précaution. Quoi. On n'aurait pas le gaz de lac, parce qu'on n'a pas le droit. Voilà. Alors moi, à nouveau, je suis administrateur total. Donc, vous savez, il y a un débat, vous avez sûrement lu le livre, comment il s'appelle, qui est de journaliste de Mediapart, je perds la mémoire, moi ça va me revenir, qui assassine les économistes. Hein. Oui, de Laurent Maudit, qui est un copain en plus, Laurent. Et d'ailleurs, vous savez, j'aime beaucoup Bordeaux, parce que ce soir, non, je vais interviewer François Hollande avec Laurent Maudit sur Mediapart. Donc, Laurent Maudit dit que les économistes sont tous achetés, etc. Donc, mais en réalité, quand vous discutez avec Laurent Maudit, il dit pas ça. Laurent Maudit, il dit, du moment que vous êtes transparent, il n'y a pas de problème. Donc, je dis, je suis administrateur total, ça évite de me faire tuer par Maudit la prochaine fois qu'on vous fera ensemble. Mais je vais essayer de dire de façon assez indépendante ce que je pense du sujet gaz de schiste. C'est en train de créer une révolution aux États-Unis, qui est que l'énergie aux États-Unis devient quasiment gratuite. Enfin, celle-là. Et le gaz naturel aux États-Unis, ce soir, ça vaut... Alors, l'unité, c'est le million de British Thermal Unit, donc je vous passe l'unité. Enfin, ça vaut 2 dollars le million de BTU, ça vaut 11 en France, ça vaut 18 en Asie. Tout ce qui pouvait se faire, tout ce qui se faisait au pétrole et qui peut se faire au gaz aux États-Unis passe au gaz. L'électricité, la chimie, etc., le chauffage de la maison, ça, tout passe au gaz. Et il y en a tellement que les prix vont continuer à baisser, au point que certains, maintenant, des analystes de société disent que ça va être gratuit. Ça vaudra zéro, le gaz naturel, aux États-Unis. Ce sera un bien gratuit. La raison technique, c'est quand vous faites un forage, vous ne trouvez pas que du gaz, vous trouvez du gaz, il y a un truc qui s'appelle le condensat de pétrole. Et la vente du condensat de pétrole rentabilise le forage. Le gaz, il vient avec et vous pouvez le donner, quoi. Et ceci est en train de réindustrialiser les États-Unis. On n'avait pas construit une seule usine en Louisiane, par exemple, depuis 30 ans. En ce moment, il y a 6 raffineries de pétrole, 3 usines de liquéfaction du gaz, une douzaine d'usines chimiques, etc. En même temps, faut pas être naïf. L'exploration du gaz du schiste. Alors le film là sur le gaz, c'est un délire total avec plein de trucages, mais c'est quand même un truc qui est compliqué. Le danger, vous savez, essentiel. Enfin, il y en a deux. C'est un, ça consomme de l'eau, puisqu'on récupère que 50% de l'eau qu'on injecte, le reste reste au fond. Et deuxièmement, c'est qu'on met des solvants dans l'eau pour casser la roche et qu'on traverse la nappe phréatique avec le tuyau. Et que s'il y a une fuite sur le tuyau au niveau de la nappe phréatique, on pollue la nappe phréatique pour quelques dizaines de milliers d'années, ce qui est quand même pas complètement rassurant. Et ça, c'est déjà produit dans les Appalaches. Hein. Donc, c'est pas complètement innocent, non, mais les Américains ont fait le choix d'y aller. Hein, et ils vont avoir un avantage. Et alors, C'est au point qu'en ce moment, par exemple, la chimie américaine a des prix de sortie d'usine plus bas que la chimie chinoise.
Oui, mais on sait que les États-Unis n'ont pas une vision d'environnement qui est la même.
Ça a vachement changé, parce qu'à nouveau, aux États-Unis, on ne pouvait plus construire une usine. On n'avait pas construit une centrale électrique depuis 20 ans aux États-Unis. On ne pouvait plus rien construire à cause des problèmes d'environnement, justement. Et là, la montée du chômage depuis la crise, surtout dans le Sud, fait qu'ils ont complètement changé d'avis. Et maintenant, c'est des emplois, des emplois, des emplois. Et donc, ils s'assoient sur les problèmes d'environnement, clairement. Mais ça va créer quand même, ça va nous créer une complication supplémentaire. C'est que dans nos concurrents, on va avoir non seulement les émergents, où là, l'avantage, c'est le coût du travail, mais on va avoir les Américains, où l'avantage va être l'énergie quasi gratuite. À nouveau, aujourd'hui, tous les industriels mondiaux de la chimie ont changé tout leur plan en disant, mais c'est pas en Corée, on va aux États-Unis produire. Et au Canada, parce que vous savez, c'est aussi avec les schistes bitumineux, etc. Et donc, vous voyez, donc, moi, je dis simplement, il faut avoir un vrai débat. Alors, on peut décider, après tout, on peut décider qu'on ne veut pas, quoi. Moi, je ne suis pas contre. À nouveau, je trouve que le gaz de schiste, ça fait. Enfin, il y a des trucs qui font peur quand même dans la technologie. Et puis, étant chez Total, on sait que de temps en temps, ça pète, quoi, le truc. C'est une industrie dangereuse, l'industrie du pétrole et du gaz. Il ne faut pas se le cacher. Mais il y a des choix stratégiques, enfin, il y a des choix sociaux et politiques qu'il faut faire. Et moi, je voudrais qu'on les fasse vraiment. C'est-à-dire que là, les Américains ont fait un choix. Qui est d'y aller, quoi. Donc, ils font des trous partout. Alors, si vous allez dans le fond de l'Ohio, c'est impressionnant. C'est un truc au fond de Pittsburgh, puis vous roulez là, pendant 3 heures. C'est un truc dément, quoi. Je veux dire, il y a des milliers de puits avec des trous partout.
On peut difficilement envisager la même situation en France.
Là où c'est, il n'y a pas un rat à moins de 200 km, faut pas me reconnaître. Donc, c'est un peu vide, là. Puis le coin est un peu déprimant. D'ailleurs, c'est vrai, une espèce de steppe. voilà. Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est. Sans aller peut-être jusque-là, le principe de précaution, c'est quand même un vrai obstacle à l'industrie. Quand vous regardez le 20h le soir, on vous explique qu'il y a des pauvres gens qui sont à côté d'une usine chimique. Quoi. C'est vrai que c'est pas marrant d'être à côté d'une usine chimique, ça sent pas bon. Quoi. Puis ça peut péter. C'est vrai.
Il y a eu problème de dioxine et autres.
Alors maintenant, c'est quand même. Enfin, il y a Seveso, enfin, on fait quand même très attention. C'est dangereux. Faisin, toute la chimie, le couloir de la mort, vous savez, en dessous de Lyon, le jour où ça pète, ça va pas être joli. Quoi. Donc il faudrait mieux, effectivement, éloigner ça des centres-villes. Quoi. Mais si on va trop loin en disant on veut courir zéro risque, c'est pas vrai pour toute l'industrie. Enfin, si vous fabriquez des microprocesseurs, c'est quand même pas trop dangereux. Mais il y a quand même tout un bout de l'industrie, que ce soit le verre, l'acier, la chimie, les plastiques, etc. C'est dangereux, quoi. Je veux dire, enfin, c'est des trucs, il faut faire extrêmement attention. Et donc, il y a un vrai sujet de débat politique, je trouve, en disant quels sont les risques qu'on accepte de courir, quels sont les risques qu'on n'accepte pas de courir. On ne sait pas forcément d'ailleurs bien les mesurer, parce qu'on est dans les risques extrêmes, quoi. Ça pète avec une probabilité de 20%. Quand ça pète, c'est horrible, et c'est une probabilité de... Vous savez, les EPR, la probabilité qu'un réacteur EPR, donc de nucléaire 3e génération, pète, c'est 10 puissance moins 9. Dans sa durée de vie. Donc il y a une chance sur 1 milliard dans la durée de vie du réacteur qui pète. Bon, s'il pète, ça peut quand même faire quelques millions de morts, mais c'est 10 moins 9. Quoi. Donc c'est ce genre de risque. Est-ce qu'on sait traiter ce genre de risque? Je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment de façon de traiter ce type de risque. Quoi.
Non, mais c'est vrai que l'exemple de Fukushima
Je trouve qu'on exagère. Et puis on n'est pas forcé de tout jeter dans les rivières sans rien traiter, comme les Chinois, qui ont complètement détruit 75% de l'euro. Ouais. On sait faire mieux que ça, quand même. Mais... Quand vous regardez les statistiques, l'Allemagne, qui est plus industrielle, a beaucoup plus de pollution de l'eau, par exemple, que... Je ne parle pas des problèmes agricoles en France, mais des pollutions industrielles, il y en a beaucoup plus en Allemagne qu'en France, simplement parce qu'il y a plus d'industrie en Allemagne qu'en France. Hein, voilà. Donc, l'industrie, ce n'est pas forcément populaire. Quoi, hein, c'était juste un point que je voulais faire. Hein.
Bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette conférence. Il ne nous reste plus qu'à remercier M. Patrick Artus de toutes ces informations. Et donc, si certains d'entre vous souhaitaient une dédicace de l'ouvrage de M. Artus, je pense que vous le feriez volontiers. Merci à tous, et puis je vous souhaite une bonne soirée.